j'apprécie. D'abord parce que ça me change de la manière d'enseigner habituellement les maladies aux étudiants en médecine. Ensuite, parce que le sujet qui m'est proposé me permet d'aborder, je dirais, une présentation de ce que sont les maladies un peu différente de ce que vous avez peut-être l'habitude de connaître. On a vécu au 19e siècle, au 20e siècle, dans les pays développés, avec l'idée des maladies, avec un modèle extrêmement simple. Le modèle le plus simple et le plus classique, c'est celui de la maladie infectieuse, où il y a un agent responsable, un microbe, un virus, une maladie, un traitement, un antibiotique. Et les choses sont toutes simples, toutes cadrées. Alors ça existe encore. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sida, et la grippe est là pour nous le rappeler. Mais les maladies qui concernent maintenant l'immense majorité de la population et qui sont les maladies qui sont les maladies qui tuent les êtres humains obéissent à des modèles complètement différents, qui sont des modèles de complexité où il n'y a pas une cause, où il n'y a pas un traitement simple et où il y a en général une évolution extrêmement chronique. Et les maladies cognitives dont on va parler aujourd'hui sont une parfaite illustration de ces problèmes. Alors, je pourrais parler pendant des heures et des heures de ces maladies. Je voudrais simplement, aujourd'hui, dans le peu de temps que nous avons à notre disposition, parler de trois choses. La première, c'est de dire que ces maladies sont des maladies du parcours de vie et de vous montrer que nous ne sommes pas des êtres inertes par rapport à notre santé et que si la maladie d'Alzheimer est décrite comme une maladie épidémique et la catastrophe du futur, on se rend compte que nos comportements, à tout âge, le vôtre comme le mien, peuvent jouer sur une partie de notre destin vis-à-vis de ces maladies. La deuxième chose que je voudrais aborder avec vous, c'est ce rapport très particulier que ces maladies requièrent dans la relation avec le patient. On est dans une situation où la relation à autrui est perturbée par cette maladie, et donc en tant que soignant, mais aussi en tant qu'ami, parent, peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage que vous aimez qui sont atteintes de ces maladies, eh bien notre comportement et notre lecture doit être différent. Et je vous raconterai un peu comment se passe une des consultations que je fais lorsque je vois pour la première fois un patient. Et puis le troisième point que j'aborderai, c'est un point un peu particulier qui essaiera de vous montrer que dans ces maladies qui sont des maladies chroniques, mortelles, pour lesquelles on n'a pas de traitement, pour autant, une prise en charge intelligente, globale, alors le mot est un peu galvaudé, mais globale, permet d'améliorer considérablement la qualité de vie des patients, et c'est ça qui est extrêmement important. Alors, très rapidement, ce qu'on appelle les maladies cognitives, ce sont des maladies qui altèrent le fonctionnement intellectuel, c'est-à-dire qui altèrent tous les outils qu'on a dans notre cerveau qui nous permettent de penser, d'agir d'une manière cohérente. Et ces outils, c'est... Alors, il y a les petits outils de base qu'on appelle... Alors, il y a la mémoire, il y a le langage, il y a ce qu'on appelle les praxis, c'est-à-dire nos capacités à faire des gestes organisés et synchronisés. Par exemple, enfiler une chemise et la boutonner. Eh bien, on a besoin d'une séquence de gestes, ça s'appelle les praxis. Après, il y a les gnosies, c'est-à-dire la reconnaissance de soi-même, de son corps, et la reconnaissance des autres et du monde extérieur. Et ces outils de base, ces briques, eh bien, on les assemble pour faire deux choses fondamentales qui différencient l'homme de l'espèce animale. C'est d'abord ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont des fonctions stratégiques qui me permettent, par exemple, le matin, de m'habiller, de faire un café, etc. Donc ça, c'est comment je fais des séquences de gestes intelligemment coordonnés qui aboutissent à une action dont je tire des bénéfices. Ça, c'est le côté concret des choses. Et puis, je peux aussi utiliser toutes ces briques de mémoire de langage dans l'abstraction, c'est-à-dire sans geste, mais pour penser et pour concevoir des choses, et par exemple pour concevoir comment raconter à des jeunes gens comme vous la maladie d'Alzheimer. Ces maladies... D'accord, parce que comme ça faisait un écho. Alors, ces maladies ont comme conséquence, comme on n'a plus ces outils qui nous permettent de nous différencier, de nous repérer dans le monde extérieur, eh bien le monde extérieur nous devient étranger, incompréhensible, et on est dans une situation où on est en altération de la relation avec les autres. On est dans quelque chose qui n'est pas une démence au sens psychiatrique, parce qu'il y a des lésions dans le cerveau, mais on est bien dans quelque chose où le jugement, notre capacité à vivre et à survivre se trouve altérée. Et puis ce sont des maladies qui sont extrêmement, entre guillemets, intéressantes, car ce sont des maladies qui concernent, à quelques rares exceptions près, des sujets très âgés. C'est en quelque sorte des maladies qui sont les maladies aboutissement du parcours de vie, qui sont des maladies qui accompagnent l'avancée dans le temps, qui ne sont pas le vieillissement à proprement parler, mais qui sont des choses qui sont en quelque sorte inéluctables. Et il y a des théories, des débats sans fin pour savoir si ce sont des maladies ou si finalement c'est peut-être l'extrême usure, entre guillemets, de l'espèce humaine qui nous amène à avoir un certain nombre de pertes de nos fonctions intellectuelles. Alors, ces fameuses maladies cognitives, c'est un ensemble très, très, très varié. Il y en a beaucoup. On les classe en fonction des symptômes, on les classe en fonction des lésions qu'on observe lorsqu'on regarde le cerveau au microscope, bien sûr, après le décès du patient, car il n'y a pas de biopsie comme dans le cancer. On les classe en fonction de leur mécanisme. Mais la maladie la plus fréquente, qui est celle dont vous avez entendu tous parler, qui est la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Ça veut dire que les cellules meurent, les structures cérébrales se détruisent sans qu'on mette en évidence un mécanisme précis, comme par exemple des artères qui se boucheraient, qui feraient que les cellules mourraient par manque d'oxygène et de sang. C'est la maladie la plus fréquente et on considère, alors c'est un débat un peu compliqué, mais on considère qu'elle concerne en France de 400 à 800 000 personnes, c'est-à-dire un nombre extrêmement important. Alors avec des degrés divers, il y a des formes légères, il y a des formes beaucoup plus sévères. Et on pense que l'évolution du nombre de patients va correspondre tout à fait au vieillissement de la population. Le principal facteur de risque de cette maladie étant l'âge. Plus il y a de personnes qui ont la chance extraordinaire d'arriver dans un grand âge, mais plus malheureusement cette chance s'accompagne d'un prix à payer avec une fréquence, un risque de maladie d'Alzheimer plus important. Alors, c'est une maladie du vieillissement, donc vous voyez les projections dans le futur. Les barres en jaune représentent les effectifs supposés de cette maladie dans le futur, c'est-à-dire ici en 2040. Et vous voyez que si on compare avec la courbe en rouge qui est en 2020, c'est-à-dire très bientôt, et la courbe en bleu qui est celle d'il y a quelques années, on assiste à un doublement, un triplement ou un quadruplement des patients. Et vous voyez bien qu'en fonction des tranches d'âge, eh bien, on a une fréquence de plus en plus importante de patients. Ça, c'est toute chose égale par ailleurs. Ça veut dire qu'on suppose que ce qui est à l'origine de la maladie d'Alzheimer et de sa fréquence aujourd'hui va se reproduire à l'identique en 2040. Et ça, c'est compliqué parce que probablement que cette notion d'épidémie terrifiante, vous voyez que voilà, quand on aura plus de 90 ans, eh bien, on aura une probabilité très élevée. Il y aura presque 1 million de personnes de plus de 90 ans qui seront atteintes de cette maladie. En fait, c'est probablement plus compliqué que ça, parce que lorsqu'on regarde ce qui est aujourd'hui reconnu comme soit facteur de risque, soit facteur associé au fait d'avoir une maladie d'Alzheimer, eh bien on se rend compte que c'est une maladie dont on ne connaît pas les causes précisément, mais on connaît un certain nombre de facteurs qu'on rencontre au cours de notre existence, qui sont des facteurs soit qui provoquent la maladie, soit qui au contraire nous en protègent. Et quand on regarde ces différents facteurs, on n'est peut-être pas obligé d'être si pessimiste que ça. Alors ça commence très tôt, puisque avant même la naissance, notre détermination en sexe masculin et sexe féminin, c'est entre guillemets un facteur de risque et on sait que l'espèce humaine, enfin les femmes, ont plus de malchance que les hommes d'avoir une maladie d'Alzheimer un jour. Alors c'est indépendant de l'âge bien sûr, mais voilà, le fait d'être une petite fille quand on est expose à un risque un peu plus important et ça on n'y peut rien, ça fait partie des choses de la vie. En revanche, on se rend compte que à l'enfance et à l'adolescence, il y a des facteurs qui sont protecteurs et il y a des facteurs qui sont exposants. Et notamment, alors c'est compliqué de dire ça, mais le niveau scolaire est quelque chose qui est important. Dans les générations qui aujourd'hui sont atteintes par ces maladies, les gens de 80 ans et plus, on se rend compte qu'entre les personnes qui n'ont pas passé le certificat d'études et ceux qui ont fait des études, passé le bac et fait des études supérieures, eh bien il y a un risque double quand on n'a pas le certificat d'études. Finalement, moins on a alors soit travaillé à l'école, soit été à l'école, soit été soumis au stress des examens, soit le type de travail qu'on a fait, eh bien c'est quelque chose qui expose à un risque plus important. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme le niveau, et n'écoutez pas vos enseignants quand ils vous disent qu'ils n'ont jamais vu des élèves aussi mauvais que vous, le niveau d'éducation et de connaissance des générations flambe par rapport à la génération des gens qui ont 80 ans aujourd'hui. Vous ne connaissez plus les préfectures par cœur, mais vous connaissez plein d'autres choses. Et un certain nombre d'études laissent à penser que, plutôt que d'apprendre par cœur ce qui ne développe pas le cerveau, de développer des stratégies, d'être finalement mis en responsabilité, d'être mis en stress, donc moi je suis assez favorable aux examens un peu stressants, probablement que ça développe des connexions de neurones ou des habitudes de réaction qui mettraient à l'abri de les maladies d'Alzheimer dans le futur. Donc plus le niveau scolaire d'une population, le niveau de connaissance augmente, peut-être moins le risque de maladie d'Alzheimer apparaîtra dans le futur. Et donc peut-être que cette vision très négative que l'on a du futur avec le nombre de malades que je vous ai montré n'aura pas lieu. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est que c'est aussi une maladie du mode de vie. Alors c'est vrai pour beaucoup de maladies, c'est vrai pour les maladies cardiovasculaires, on le sait maintenant que c'est vrai aussi pour le cancer, mais on découvre que les comportements que l'on a que ce soit des comportements alimentaires ou que ce soit des comportements vis-à-vis des activités physiques, alors pas à votre âge, au mien, à la maturité, sont surdéterminants pour le risque de maladie d'Alzheimer. Il y a une magnifique étude qui a été faite sur une population scandinave qui démontre que lorsque l'on a 50 ans et qu'on fait du sport d'une manière, on va dire, assez énergique, je ne sais pas si c'est pas le mien, je pensais que c'est le mien qui est... Parce que je l'ai coupé, mais c'est juste le chronomètre. Vous me ferez un petit coucou parce que... Moi, j'ai coupé le chronomètre. Eh bien, quand on fait beaucoup de sport à 50 ans versus des populations qui n'en font pas, eh bien, on a trois fois moins de risque de maladie d'Alzheimer quand on a 80 ans que si on ne faisait pas de sport. Alors, bien sûr, c'est du sport qui est un marqueur d'un comportement global. Mais d'autres études nous montrent que la pratique d'activité physique met à l'abri du développement de l'Alzheimer ou peut-être repousse l'émergence de cette maladie à des âges de plus en plus avancés. Sous-entendu, si actuellement, on va dire que 75% des patients ont plus de 80 ans, voire plus de 85 ans, peut-être que dans 30 ans, dans 40 ans, dans ma génération, eh bien, il y aura toujours le même pourcentage de patients, mais cette maladie émergera à 95 ou à 100 ans. Et donc, les conséquences sur la qualité de vie d'itinéraire d'individu seront complètement différentes. Donc, vous, il faut que vous passiez des examens, éventuellement un peu durs, un peu stressants, et moi, il faut que je fasse du sport. Il faut aussi que j'ai une alimentation saine. Et il y a de très jolies expériences qui ont été menées avec des rats. Alors, les rats et l'homme, ce n'est pas toujours la même chose. Mais on a nourri des rats, on les a surnourris avec ce qu'on appelle de la malbouffe. Alors, je ne veux pas critiquer les pizzas et tout ça, c'est bon. Mais une alimentation structurée un peu comme une mauvaise pizza, pleine de gras, de sucre, donnée en suralimentation à des rats, eh bien, ils développent une maladie qui ressemble à la maladie d'Alzheimer. Ce qui veut dire que cette maladie, on va la construire un peu au cours de notre existence. Alors, on a notre patrimoine génétique, mais on a des moyens d'agir sur notre santé. Et c'est probablement un message très important qu'on a à faire passer sur l'avenir de la morbidité. C'est que nous sommes tous des acteurs de notre santé par notre comportement. Alors, on a le droit à faire des excès. On a le droit à faire des petites choses borderline. Et par exemple, il a été montré qu'une consommation modérée, mais pas nulle du tout, de vin, avait un effet protecteur vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. Donc, on peut malgré tout s'amuser, malgré tout, en se protégeant de la maladie d'Alzheimer. Et puis, plus tard, lorsqu'on commence à être assez vieux, quand on a 70 ans et plus, eh bien, on sait qu'un parfait équilibre des facteurs de risque cardiovasculaire, le traitement de l'hypertension, d'un diabète, d'un excès de cholestérol, tout ça met à l'abri la maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez comment... dans cette maladie dont on ne connaît pas le mécanisme, dont ce qu'on observe quand on regarde le cerveau à la loupe, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, on a malgré tout des stratégies qui nous permettent d'en maîtriser en grande partie l'évolution. Et l'une des révolutions épistémologiques de la médecine, c'est-à-dire du mode de pensée de la médecine, c'est justement de se dire que par des voies détournées, globales, eh bien, en agissant peut-être en dehors des choses qui vont directement concerner le cerveau, on a un effet à distance et que toutes nos grandes maladies qui tuent sont des maladies de l'inné, de l'acquis et du parcours de vie. Et que, en tout cas, quand on regarde ce qui est l'état de santé des sujets très âgés, eh bien, c'est ça qui est en cause. Donc, c'est un modèle extrêmement intéressant et ça commence dès maintenant. Alors, ça donne un certain nombre de lésions dans le cerveau. Je vais passer très vite, je vais simplement vous les montrer. Ce qu'on observe dans le cerveau, ce sont deux lésions principales. Un, c'est le dépôt d'une substance qui est de nature peptidique, c'est-à-dire un assemblage d'acides aminés, une espèce de mini-protéine. Et puis, on a des neurones qui dégénèrent et qui donnent ce qu'on appelle des dégénérescences neurofibrillaires. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas ce que signifient ces lésions. Et qu'on est en train, par exemple, de tester des hypothèses thérapeutiques qui consisteraient à supprimer le dépôt de la substance. Et on a pensé qu'en supprimant le dépôt de la substance, vous avez peut-être entendu parler d'essais, on baptisait ça des vaccins il y a quelques années, eh bien on pense qu'en supprimant ce dépôt, on va guérir les malades. Et c'est en train de sortir, probablement que ça ne fait strictement rien. C'est-à-dire que ce dépôt dont on pensait qu'il était à l'origine de la mort des cellules, parce que voilà, c'est pas normal d'avoir cette substance dans le cerveau, mais on se rend compte qu'actuellement, cette hypothèse est voilà, une hypothèse qui est fausse. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas à quoi est due la maladie d'Alzheimer, on ne sait pas ce que signifient les lésions. Tout ce qu'on sait, c'est que les gens sont malades et il faut qu'on continue à faire des recherches. Mais vous voyez combien on est dépourvu de modèles théoriques qui nous permettent de réfléchir. Alors, je vous le montre à tout hasard parce que c'est toujours un peu spectaculaire. Cette maladie s'accompagne d'une atrophie du cerveau. Vous savez que le cerveau, c'est un tissu, on en a beaucoup, 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 et il est complètement replié dans des méandres dans la tête. Et vous voyez sur la partie gauche, il est tellement replié qu'entre les bouts de cerveau, il n'y a pas de place. Et puis dans la partie droite, vous voyez que le cerveau s'est atrophié et que là, ben, il y a beaucoup de place. Et c'est comme ça que l'on voit cette atrophie cérébrale. Alors ça se voit très bien au scanner, mais ça se voit aussi sur une pièce anatomique de malade qui est décédé. Et ici, la maladie concernait surtout la partie antérieure du cerveau, mais dans des formes très évoluées, c'est tout le cerveau qui est ratatiné, qui a perdu une bonne partie de sa substance. Alors voilà, à droite, vous avez vu une fois dans votre vie des plaques séniles et des dégénérations fibrillaires. On passe parce que ça, ce n'est pas l'essentiel du message que je voulais vous apporter. Alors maintenant, comment ça se passe une rencontre avec un patient et quel regard on doit porter sur ces malades? Et c'est galvaudé un peu en médecine actuellement. On dit toujours, voilà, il faut une approche globale, une prise en charge globale. Là, c'est encore plus vrai parce que cette maladie, ce n'est pas seulement la maladie d'un organe, c'est la maladie d'un individu dans son interaction avec le monde extérieur. Et lorsque, finalement, on appréhende un patient, il faut essayer de passer en revue tous ses symptômes. Alors, il y a des symptômes qui sont des symptômes cognitifs, qui correspondent en fait aux petites briques du fonctionnement cérébral et aux grandes fonctions qui sont touchées. Mais après, il faut aussi qu'on s'intéresse à comment ces dysfonctionnements cérébraux comment ils ont changé la vie d'une personne, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle n'est plus capable de faire, est-ce qu'éventuellement elle a des troubles physiques, est-ce que, et c'est un des éléments importants de cette maladie, c'est ces troubles du comportement, est-ce que, enfin, là c'est plus moi, là je suis plus responsable, comment est-ce que ça altère la relation des autres personnes à ce malade? Car vous savez, quand on est malade, on a terriblement besoin des autres, et on a encore plus besoin des autres quand on a des maladies comme ça. Simplement, la relation à l'autre devient difficile, compliquée. Et donc, dans une consultation de médecine, habituellement, on dit « j'ai mal à la gorge », on ouvre la bouche, on regarde, et puis après, on s'en va. Là, il est fondamental de passer en revue tout ça, et surtout, il est fondamental de nouer avec les patients une relation toute particulière, parce qu'on va, en quelque sorte, tester les fonctions intellectuelles de quelqu'un, lui faire passer un examen, et on sait très bien que, suivant la manière dont on se comporte, on est capable de voir le meilleur ou le plus mauvais d'une personne. Et à la limite, le plus mauvais, je m'en fiche, parce que je suppose que cette personne a des difficultés, mais ce qui m'intéresse, c'est comment, avec les capacités qu'il reste chez cette personne, comment on va bâtir une prise en charge et nouer une relation. Ce qui est totalement différent de ce que l'on voit habituellement dans, on va dire, les prises en charge des patients. Alors d'abord, la manière dont la consultation se passe, c'est jamais une manière habituelle. C'est-à-dire que ça n'est pas un patient qui vient, qui frappe à la porte, qui dit « toc toc, bonjour docteur, je voudrais vous parler de ma mémoire ». C'est quelqu'un qui vient toujours accompagné. Et on a à gérer cette relation à deux qui est le patient, son entourage familial qui l'accompagne. Et c'est un entourage qui est à la fois très aidant, qui est en général pavé de bonnes intentions, mais qui veut prendre une place dans la consultation importante. Parce qu'éventuellement, il se dit « oh là là, le docteur, il n'y en a pas pour très longtemps, donc il faut que j'arrive à tout raconter. » Et il faut éventuellement que je parle à la place du patient, à la place de mon mari, de mon père, de ma mère, parce que lui, comme il oublie tout, il ne va pas tout dire. Et il y a un jeu compliqué qui se met en place, qui consiste à recentrer le patient au milieu de la consultation et de mettre, on va dire, le membre de la famille, ce qu'on appelle l'aidant familial, sur le côté, parce que c'est avec le patient qu'il faut nouer la relation en premier. À la limite, paradoxalement, moi qui ne prends en charge que ce type de patient depuis 25 ans, en 3 secondes j'ai fait le diagnostic, c'est pas le problème. C'est plus essayer de comprendre qui est ce patient qui est devant moi, quelles sont ses difficultés, quels sont ses points forts, après de faire parler son entourage familial pour voir comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien ou est-ce que ça se passe mal, et comment est-ce que je peux essayer de corriger tout ça. Mais faire le diagnostic, je le fais en un clin d'œil, ne serait-ce qu'ils sont deux devant moi. Alors il y a un jeune et un vieux, donc je sais que le jeune il vient pas me voir, c'est forcément le vieux. Et puis j'ouvre la porte du box de consultation, je suis toujours un poil en retard. Il y en a un qui tout de suite se réveille, éventuellement en me regardant avec un air méchant, en disant quand même une demi-heure d'en retard, il se fout du monde. Et puis il y en a un autre qui est là, comme ça, souriant. Alors il se lève, il y a un membre de la famille qui dit « est-ce que je peux venir ?» Et moi ma réponse est bah, « c'est au patient de décider, si vous voulez que votre famille vous accompagne, pas de souci. » Et ce n'est pas le patient qui prend la parole en premier, c'est l'autre. Ou alors, quand je donne la parole au patient, il me dit bah, « je ne sais pas pourquoi je viens ». Ou alors, « je viens parce que j'ai mal au dos, je suis pas rhumatologue ». Et à la limite, cette scénographie me donne le diagnostic. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de comprendre qui est le patient que j'ai devant moi, de comprendre la famille, Et dans une maladie où malheureusement je n'ai pas de médicaments pour guérir, de faire en sorte qu'il y ait une espèce de jeu de séduction avec le patient et son entourage, de manière à ce que le patient se dise, si j'ai un problème, au moins je pourrais faire appel à celui-là parce qu'il a l'air sympa. Et donc cette construction d'empathie est importante. Alors il faut bien sûr faire le diagnostic, il ne faut pas avoir des a priori trop rapides, mais la consultation va durer une heure et elle va être un mélange de « je vais chercher des symptômes » tout en essayant de construire une relation avec le patient. Et donc c'est une scénographie qui est un petit peu différente de « on va voir le cardiologue, on ouvre la chemise, il écoute le cœur, il dit « oh, il y a un souffle », il vous fait une échographie et les choses peuvent être simples comme ça. Alors, comment je fais ? D'abord, je fais ça dans le désordre en fonction de ce que les gens racontent. Mais je dois passer par un certain nombre d'identifications de troubles. Alors, dans cette maladie, il y a des troubles de la mémoire. Les troubles de la mémoire sont d'ailleurs les troubles qui sont constants. Il n'y a pas de maladie d'Alzheimer sans difficulté de la mémoire. Et ce sont des troubles qui vont en tache d'huile. Ce sont les premiers symptômes qui apparaissent. Et le patient va me dire « j'ai des difficultés ». Mais pour essayer de comprendre l'ampleur de ces difficultés, je vais essayer de trouver un point commun avec lui. Et qu'avons-nous de commun, tout le monde ? C'est nous avons un présent commun et nous avons un passé commun qui est l'histoire. Et donc, comme les patients dont je m'occupe sont des gens depuis plus de 75 ans, je vais les interroger comme ça, dans la discussion, sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et quoi de plus simple que d'écouter les informations et de dire qu'est-ce qu'il y a aux nouvelles, ou au contraire, de parler de la Deuxième Guerre mondiale qui, pour cette génération, a forcément été quelque chose de vécu. Donc, je ne vais pas leur poser des pièges de mémoire en leur disant « voilà, je vais vous dire trois mots, et puis attention, dans cinq minutes, je vous les redemanderai ». Ça, éventuellement, je peux le faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils retiennent de l'actualité, de ce qu'ils ont retenu de leur passé, parce que ça me permet de quantifier l'ampleur du trouble. Alors, bien évidemment, tout ça est culturel. Il y a des patients qui ne s'intéressent pas à l'actualité. Il y en a qui s'intéressent à l'actualité parce qu'il y a eu une catastrophe quelque part, et puis d'autres qui s'intéressent au foot, d'autres qui s'intéressent à la politique extérieure. L'essentiel, c'est de ne pas porter le jugement trop hâtif et de savoir comment. En même temps, dans cette discussion, j'essaie de comprendre qui sont les gens. Alors je dis, donc vous venez, vous avez des difficultés de mémoire, racontez-moi comment vous passez les journées. Ce sont des gens qui sont pour la plupart retraités. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous écoutez la télévision ? Alors ils me disent oui. Alors j'accroche à ce moment-là l'actualité. Ou je leur demande ce qu'ils ont fait comme métier. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait comme études et comment ils étaient pendant la guerre, parce que ça a dû perturber soit l'émergence de leur métier, soit leur... Vous voyez comment, plutôt que de soumettre un patient à un interrogatoire avec des tests, dans un dialogue, on arrive à avoir les mêmes informations tout en établissant une relation d'empathie. Alors, en même temps, en n'étant pas pervers, c'est en expliquant au patient qu'avec cette conversation qui va peut-être lui paraître un peu intrusive dans sa vie quotidienne, je vais, moi, faire mon travail de médecin. Le deuxième type de trouble, c'est le trouble du langage, c'est-à-dire que l'on perd l'usage et la connaissance des mots. Et c'est une sorte de trouble du langage amnésique, c'est-à-dire qu'on oublie les mots, on oublie les mots exceptionnels d'abord, puis après on oublie les mots les plus usuels, et puis on perd aussi cette capacité que l'on a à assembler des mots. Alors, en général, il y a des périphrases, c'est-à-dire que les gens vous disent « ah, je l'ai sous le bout de la langue, mais ils inventent un mot ». Et là aussi, cette perturbation du langage que l'on met en évidence, il faut savoir, pour être certain que c'est une perturbation, il faut qu'elle soit en rupture avec le passé. C'est-à-dire que si je vois un médecin retraité en consultation, que je lui montre mon stéthoscope et qu'il me dit « ça, c'est le truc pour écouter le cœur », probablement qu'il a un trouble du langage qui n'est pas capable de me sortir le mot stéthoscope. Par contre, si c'est quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment de rapport avec le milieu médical, dire c'est le truc qui écoute le cœur n'est pas forcément une erreur. Donc, dans toutes ces évaluations intellectuelles, ce qui est extrêmement important, c'est de toujours penser... Alors, le mot niveau culturel est un mot un petit peu péjoratif, mais les habitudes et les connaissances, car on a tous des connaissances très hétérogènes, et donc savoir qui j'ai en face de moi me permet de mesurer, dans mes résultats de tests, ce qui est un déficit de fonction de ce qui est quelque chose de tout à fait banal et de naturel. Alors, ces patients ont des troubles du langage qui s'aggravent au fur et à mesure de l'évolution, avec après, dans les phases ultimes de la maladie, quelque chose qui est terrible, parce que ce sont des patients qui ne peuvent plus s'exprimer, qui deviennent quasi-mutiques, et donc on est dans une perte de la relation verbale avec les autres, et dans ce que racontent les familles qui ont un malade atteint de cette maladie dans leurs proches, on voit que cette perte de contact par le langage est quelque chose qui est très douloureux, que ce soit pour le patient, lorsqu'il en a conscience, ou que ce soit après pour les familles. Ensuite, j'essaie de mettre en évidence, donc ces troubles d'épraxie. Alors les praxies, il y en a plein, mais on voit bien que la connaissance de ces troubles va me permettre de savoir si les gens sont capables de se débrouiller au quotidien ou pas. Dans certains hôpitaux, mais ce n'est pas en France, par exemple, on fait venir les patients tôt le matin pour leur une évaluation. On leur demande de venir à jeun parce que, bien sûr, on leur fait une prise de sang. Puis après, on les mène dans quelque chose qui ressemble à une cuisine. Et on leur dit, voilà, bah, vous voyez la cafetière, etc. Débrouillez-vous, faites-moi un café. Et on voit comment les gens sont capables de se débrouiller. Moi, je ne peux pas le faire en consultation, mais j'ai des trucs. Par exemple, je demande aux gens, alors je vais lâcher le micro, de mettre les mains comme moi. Et donc, j'ai les mains jointes. Alors, les gens mettent les mains comme ça, ils baissent les yeux pour vérifier qu'ils ne sont pas trompés. Pendant ce temps-là, moi, je fais un geste comme ça, où je croise les poignets et les pouces. Et alors, on voit que les patients sont incapables d'imiter lorsqu'ils ont des troubles praxiques. Alors, ils font ça, ils me regardent, c'est pas ça. Après, ils font ça. Et on ne doit jamais laisser un patient sur un échec. Car vous connaissez très bien, vous avez sûrement passé des examens oraux, quand on commence à avoir un échec, bah pour attaquer l'épreuve après, on n'est pas très bien. Donc, s'il n'arrive pas à faire ce geste-là, j'ai des gestes de plus en plus simples. Et je termine toujours par « c'est bien ». Oui, c'est ça. Même quand il se trompe dans les mots, je termine toujours par une valorisation positive. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de regarder le patient avec un air glacial en lui disant « c'est épouvantable ce que vous faites, c'est une catastrophe ». Tout au contraire, cette construction d'empathie va permettre aux gens de se détendre. Et j'essaye de réserver les épreuves les plus compliquées pour le milieu ou la fin de la consultation, une fois que la confiance s'est établie. Plutôt que de commencer glacial, vous savez, le Pierre Freinet dans Le Grand Patron, avec la blouse derrière le bureau, regardant le malade d'un air glacial et jetant à peine un regard dédaigneux. Enfin, il faut complètement changer ce rapport au patient. Donc voilà, il y a tout un tas de praxis. Alors, par exemple, je leur demande de mimer un geste dont la logique est complètement conventionnelle. C'est-à-dire ça veut dire au revoir sur un quai de gare. Mais on aurait pu imaginer que ce soit autre chose. Et donc, voilà, toutes ces épreuves doivent se terminer par « mais oui, c'est bien ». Même si les dents à côté, parce qu'il y a toujours le membre de la famille qui est resté, voilà, est un peu désarçonné par « c'est bien » alors qu'il trouve que c'est pas bien. Et dans la manière dont lui se comporte, je peux savoir quel regard il porte sur le patient. Sous-entendu, alors ça c'est des histoires de couple, des histoires de famille, mais voilà, les enfants, mon père, ma mère, ce personnage si extraordinaire, est-ce que je suis capable d'accepter qu'il perde son brio? Et il y a deux catégories, il y a des gens qui acceptent, donc qui autorisent et qui sont dans une espèce d'empathie, quand on leur dit, bon, c'est pas grave, bah oui, t'as pas réussi à faire cuire les œufs, maman, c'est pas grave. Et puis il y en a d'autres qui disent, tu te rends compte, t'es même plus capable de faire cuire des œufs. Et dans la manière où les échecs sont reflété dans le regard de l'aidant, je peux savoir comment ça se passe. Et vous comprenez bien que c'est très important de savoir ça, parce qu'un entourage bienveillant, acceptant avec gentillesse que le malade perde ses capacités, ben c'est probablement une ambiance relativement apaisée. En revanche, j'ai le souvenir d'un pauvre polytechnicien qui était en train de se dégrader. Sa femme le mettait toujours devant les chiffres et des lettres. Il n'arrivait plus à faire le jeu des chiffres et des lettres. Et elle lui disait, mais tu te rends compte, tu n'es même plus capable de compter. Etc., etc. Et donc, voilà, il faut tirer les gens vers le haut et pas vers le bas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les troubles de la reconnaissance. Et ça, c'est une étape compliquée parce que ça va me permettre de savoir si les personnes reconnaissent leurs troubles ou pas. Et vous avez des patients qui ont des troubles extrêmement évolués dans le cas de la maladie d'Alzheimer et pour qui tout va très bien. Alors, tout va très bien, c'est bien parce qu'ils ne sont pas malheureux dans leur maladie. Mais ça devient extrêmement compliqué d'essayer de proposer une prise en charge parce que justement, tout va très bien. Imaginons par exemple quelqu'un qui ne soit plus capable de se préparer à manger, qui vit seul. Alors, on a la possibilité de lui livrer des repas à domicile. Mais lui, tout va très bien. Et donc, il ouvre la porte le matin et il voit quelqu'un qui lui dit « Bonjour monsieur, je viens vous amener votre repas. » Mais j'ai rien commandé. Et vous voyez que les gens qui n'ont pas conscience de leurs troubles, eh bien, ça va être très difficile de les prendre en charge parce que tout va très bien. Et vous voyez les problèmes éthiques qui vont se poser. Parce que des gens peuvent, entre guillemets, se mettre en danger parce que, voilà, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Mais jusqu'où a-t-on le droit, on en reparlera après, d'intervenir chez ces gens-là? Et puis, au pire, eh bien, quand on a le sentiment que tout va très bien et que les autres vous renvoient l'image de tout va mal, la dérive un peu paranoïaque arrive très, très vite. Et moi, je me souviens d'un patient qui a frappé sa femme en sortant en disant « Mais qu'est-ce que t'as encore été raconté au docteur pour me faire passer pour un fou ?» Alors qu'il était malheureusement atteint à un degré très évolué de maladie d'Alzheimer. Il avait quand même comme praxis suffisamment de capacité pour frapper sa femme. Alors, c'est aussi une étape importante parce que tous les patients ont une certaine Alors ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est la non-reconnaissance de leurs troubles. Et on va dire que ça met un peu à l'abri les patients d'une certaine forme de souffrance. Et moi, je suis toujours très étonné des patients que je vois régulièrement. Ils me disent à chaque consultation, « Ah, ça va de mieux en mieux ». Malheureusement, ils se dégradent, mais ils ont la perception que ça va de mieux en mieux. Et il y a fort heureusement dans ces maladies, on va dire plus de la moitié des patients qui disent qu'ils vont assez bien. Et donc, ça n'est pas cette catastrophe que l'on a tendance un peu à véhiculer dans les médias. Sauf qu'on va se trouver dans une contradiction de discours entre le patient qui dit « je vais très bien » et son entourage qui va, au contraire, décrire une situation catastrophique. Nous avons comme médecins le devoir et la nécessité de connaître le récit de l'entourage. Mais il est très important de savoir passer la parole à l'entourage. Imaginez-vous, vous venez avec votre père, votre mère en consultation, vous racontez un truc et puis tout d'un coup, le médecin passe la parole à votre parent et votre parent dit tout le contraire de vous. C'est gênant. Et puis, à quel droit il a de raconter tout le contraire? Donc, on est là à peu près à la moitié de la consultation. La relation est sympathique avec le malade. Et je dis, ben voilà, comme vous avez un peu des difficultés de mémoire, est-ce que vous autorisez votre parent qui est à côté à dire ce qu'il a envie de dire et ce qu'il voit? Parce que comme vous avez des difficultés de mémoire, peut-être qu'il va dire des choses que vous avez oubliées. Mais est-ce que vous l'autorisez à tout dire? Et bien évidemment, toujours le patient dit oui, ou presque toujours. Et donc cette autorisation de parole que l'on donne aux membres de la famille permet aux membres de la famille de dire, bah oui docteur, c'est pas si simple, je vais vous dire, il se perd dans son quartier, il vous dit qu'il lit le journal, pas du tout, il lit plus le journal, il fait plus rien, et puis la dernière fois il a fait pipi dans le réfrigérateur. La réalité de l'Alzheimer, c'est ça aussi, et il faut la connaître. Et donc cette possibilité que l'on a de passer la parole à l'aidant, c'est très important. Alors, ce que je fais pour la reconnaissance, parce que moi je suis fatigué à ce stade, parce que je suis en train de capter l'attention d'un malade, il est un peu fatigué, il y a un trouble qui s'appelle la prosopagnosie, qui est la non-reconnaissance des visages. Et là, pour faire une petite pause, je montre des photos de personnages célèbres. Moi, ça me détend un peu. Et puis là encore, on arrive toujours à positiver. Alors, on va le faire. Je vous écoute. De Gaulle. La reine d'Angleterre. Le pape. Jusqu'ici, tout va bien. Plus compliqué, Staline. Alors là, il commence à avoir des difficultés. Ils me disent « Oh !» Alors, alors, c'est intéressant parce que ça permet de voir comment se structurent les souvenirs. Et les gens disent « Oh, celui-là, il n'est pas gentil. » Ça démontre qu'ils reconnaissent quand même un espace. Et alors, c'est quelque chose qu'on évoque toujours auprès des familles. Même si, voilà, les gens ne reconnaissent plus leurs proches, il y a quelque chose qui est étonnant et magique en même temps, c'est qu'il y a toujours l'identification du gentil et du pas gentil, et que même si les malades très très évolués appellent tout le monde monsieur, madame et ne reconnaissent plus le fils, malgré tout, les enfants, les très proches, les conjoints, c'est différent, mais les enfants sont toujours reconnus comme les très intimes. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est je ne sais plus qui tu es toi, mais il y a quelque chose qui me plaît en toi, et c'est une mère et son enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui perdure et on le devine un peu avec ça. Donc là, ils me disent « c'est un russe », etc. Mais il y en a qui me disent « c'est Staline ». Eh oui. C'est là où vous touchez du doigt la notion que nous sommes en interaction avec le monde et que ce qui est intéressant, c'est la perte de nos acquis et non pas des acquis dans l'absolu. Alors là, c'est qui? Eh bien, c'est Jean Gabin. Et c'est qui Jean Gabin? Ben oui, c'est un acteur qui a fait battre le cœur des vieilles dames d'aujourd'hui. Alors, comme il y en a pour tous les goûts, bien sûr. Ah là, vous connaissez. Je l'ai dit. Alors, il y en a qui me disent, ah, il y a un lien entre les deux. Et alors, pour vous montrer qu'on peut piéger les gens à l'infini et que si on veut être très pervers, on peut pousser jusqu'à la fin, c'était où? C'était quand? C'était à quelle date? À Montoir. Très bien. À quelle date? Ouais. Non, c'était en octobre 40. D'où Hitler, il revenait d'où? Il revenait d'Anda, il avait rencontré Franco. Et qu'est-ce qu'il avait dit après avoir vu Franco? Je préférais me faire arracher 4 dents que de le revoir. Voilà. Et ben voilà. Et ben moi, je connaissais pas. C'est mon fils qui m'a donné cette image-là. Bon. Chut, ça détend. Moi, ça me permet de faire une pause dans la consultation. Et ça me permet de voir comment les gens ont ces capacités de reconnaissance. Mais bien évidemment, il faut corréler ça à l'élément culturel, parce que moi, je ne connaissais pas ma Makelele. Mais j'avais entendu son nom, mais je ne connaissais pas son visage. Alors après, une fois qu'on a identifié ces différentes briques qui sont un peu perturbées, comment ça se traduit dans la vie quotidienne et dans les capacités des personnes à faire des gestes. Et là, ça devient dur. Et c'est pour ça qu'il a été essentiel de créer une bonne ambiance dans la consultation, parce que là, on va être dans le dur et dans le douloureux. Et ça va être uniquement des choses du genre « je faisais, je ne fais plus », « il faisait, il ne fait plus ». Il jouait au bridge, il joue plus au bridge. Il jouait à la belote, il joue plus à la belote. Il bricolait, il bricole plus. Et là, malheureusement, on voit ce qui est la caractéristique de cette maladie, c'est cette espèce de réduction et d'obscurcissement des capacités des gens. Alors, ça va des choses très élaborées, comme, je sais pas, être capable de gérer l'argent, être capable de faire les impôts, jusqu'à être capable de se préparer à manger. Et cette phase de consultation dont moi j'ai absolument besoin, parce que ce que je vais mettre en place après, c'est une compensation des handicaps des personnes, j'ai besoin d'additionner les croix. Et là, c'est pas rigolo, parce que on perd des activités. Même si, et c'est toujours intéressant de voir comment les patients s'en sortent, il y a toujours une bonne raison. Il y a par exemple une fonction qui est perturbée, c'est la capacité d'établir un itinéraire, c'est-à-dire de prendre le métro et de changer 3 fois de station. Alors, je leur dis, est-ce que vous prenez encore le métro ? Ah non, 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 alors il y a les escaliers, ou alors il y a les jeunes qui courent et qui me bousculent. Il y a toujours un bon faux prétexte. Non, j'ai arrêté de jouer à la belote parce que, ouais, ils m'emmerdent mes copains, ou j'ai gagné tous les tournois, ça ne m'intéresse plus. Ça permet de voir comment les patients vivent cette réduction de leurs activités. S'ils vous disent, avec un bon prétexte, bon, finalement, c'est pas grave, on imagine qu'ils sont pas en souffrance. Par contre, s'ils commencent à avoir la larme à l'œil et à vous dire, voilà, ah ben, je peux plus m'occuper de mes petits-enfants, ou je faisais du bénévolat, ils veulent plus de moi, on voit l'ambiance, et cette notion d'ambiance, elle est très, très importante parce que, voilà, comment accompagner un patient, si ce n'est gérer ses ambiances. Et donc, on compte les pertes. Et puis, il y a les troubles du jugement qui sont l'aspect abstrait des aspects exécutifs. Alors, moi, je fais 2 épreuves toutes simples. La première, c'est que je demande aux gens, expliquez-moi le proverbe « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Eh oui, c'est pas si simple. Et après, je leur raconte une histoire qui est l'histoire du dernier wagon. Alors, je dis, voilà, la SNCF a remarqué que lorsqu'il y avait des morts et des blessés, c'était toujours dans le dernier wagon. Donc, la SNCF a décidé de supprimer le dernier wagon. Alors là, il y a une palette de relations. D'abord, il y a ceux qui se mettent tout de suite à rire en disant « Oh, bah, voilà. » Il y a ceux qui me regardent en disant « Ce mec, elle doit avoir à peu près 15 ans d'études après le bac, donc forcément, il y a un piège. » Et puis, il y a ceux qui ils mettent un certain temps parce que, voilà. Et puis après, il y a ceux, bien sûr, qui trouvent ça tout à fait normal. Mais en même temps, c'est une information, mais ce n'est pas une sanction. Car un jour, dans un débat sur les dépenses de santé, dont vous savez qu'en France, elles augmentent, un économiste très sérieux m'a dit, vous savez, vous qui êtes gériatre, c'est surtout les vieux qui consomment, et c'est surtout dans la dernière année de leur vie qu'ils consomment beaucoup de dépenses de santé. Peut-être y aura-t-il quelque chose à faire. Et donc, je lui ai raconté l'histoire du dernier wagon, la maladie d'Alzheimer, et on ne s'est pas quitté très bons amis. Voilà. Alors, vous aurez peut-être vu ou vous verrez dans les manuels ou dans des articles consacrés à cette maladie, on parle de tests stéréotypés. C'est-à-dire, par exemple, on parle d'un test qui s'appelle le mini mental status. C'est une épreuve sur 30 points. Moi, personnellement, je ne les utilise pas parce que ça ne me dit rien de ce que je dois faire pour le patient ni de qui il est. Mais on peut faire des tests. Alors, par exemple, il y a un test qui est très intéressant qui consiste à demander à quelqu'un de positionner les chiffres qu'il y a sur le cadran d'une horloge et de décider les aiguilles lorsqu'il est 5h moins le quart. Vous pourrez le faire, vous verrez, vous y arriverez sans difficulté. Un patient qui a une maladie d'Alzheimer, déjà, ça commence à plus être très structuré. Puis, même s'il commence par 24, après, ce n'est pas 13, 14, 15. Hein, c'est 1, 2, 3, 4. Et puis, ça peut être voilà, ce qu'on appelle des troubles visuo-spatiaux, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'appréhender visuellement l'espace dans sa globalité et de se positionner correctement dedans ou de positionner quelque chose que l'on veut dessiner. Donc, voilà un exemple. Un autre exemple, 5h moins le quart. Et ça, c'est un test très, très sensible. C'est-à-dire vous pouvez avoir des patients qui ont des tout petits troubles de la mémoire, 3 fois rien, et puis vous leur demandez de faire ce test, et là, plaf, on voit c'est un test très, très sensible, très spécifique. Là encore, faut pas dire « Ah, mon Dieu, vous avez raté, vous avez tout », parce qu'on peut scorer ce test, on peut le noter sur 8, alors on peut dire oh, « Vous avez 0 sur 8, c'est une catastrophe, madame ». Vous prenez le test en disant « Oui, c'est bien », et vous le rangez dans le dossier sans pour autant voilà, stigmatiser une défaillance quelconque. Voilà une forme encore plus compliquée de trouble. Et là, le patient était ravi. Il disait, vous avez vu, c'est super. Et je lui dis, bah oui, c'est vachement bien. Il est vraiment 5h moins le quart. Et puis on est passé à autre chose. J'avais l'information, j'avais besoin de rien d'autre. Alors, cette maladie, elle a une évolution, ça dure entre 10 et 12 ans, entre les premiers symptômes qui sont les troubles de la mémoire, et puis cet état ultime qui est malheureusement cet état un peu grabataire ou très très terminal, où nous, les Français, nous employons le mot démence au sens où c'est la déstructuration complète de la pensée abstraite. Le problème, c'est que cette maladie, elle ne fait qu'évoluer, elle évolue lentement, progressivement, et vous comprenez bien que, voilà, la famille peut raconter en 5 minutes une histoire de maladie d'Alzheimer, j'ai le diagnostic. Mais là encore, c'est essentiel que ce soit le patient qui me raconte ses symptômes. Voilà l'évolution. Et là encore, cette maladie dont vous avez la description, ça commence par des petits troubles de la mémoire, trois fois rien, où est-ce que j'ai cherché ma voiture, je ne l'ai plus retrouvée dans le parking. Et puis après, cette perte progressive des capacités pour aboutir à ce tableau dramatique. C'est un diagnostic qui se fait sur la clinique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'aller faire, dans les formes typiques, d'aller faire un scanner du cerveau ou une IRM, on n'a pas besoin d'aller dans une consultation hyper spécialisée, on n'a pas besoin de passer 2 heures de test avec une neuropsychologue. Mais cet itinéraire d'acceptation de la maladie, parfois, va nécessiter de faire des examens. C'est-à-dire qu'un patient, il peut venir voir le professeur Machin à l'hôpital, si au bout d'1 heure, il lui dit qu'il a une maladie d'Alzheimer, bon, voilà, le professeur Machin, on l'a vu à la télé... On peut accepter son diagnostic. Mais mes assistants, qui sont des petits jeunes pour certains, sont aussi capables que moi de faire le diagnostic rapidement. Mais voilà, leur parole va être moins facile à accepter. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin du temps d'un itinéraire. Car lorsqu'on a des difficultés de mémoire, en général, on ne vient pas consulter tout de suite. Souvent d'ailleurs, c'est la famille qui vous prend par la peau du dos pour vous emmener. C'est compliqué d'aller consulter quand on a un symptôme, parce qu'on a peur du diagnostic. Puis, on a tellement entendu parler de maladie d'Alzheimer qu'on a peur de l'avoir. Donc, entre la première consultation, la reconnaissance des difficultés, voilà, on va passer des examens, c'est un temps. Et ce temps, il est parfois nécessaire pour accepter qu'on est malade et qu'il faut qu'on rentre dans une prise en charge. Et donc, certains examens, le scanner, les prises de sang, etc., les tests neuropsychologiques complets peuvent tout à fait, pour moi, s'intégrer dans cette situation. C'est vrai que dans des cas difficiles, on a besoin de faire des tests plus compliqués, mais dans les formes habituelles, qui sont 99% des patients, on pourrait à la limite se contenter de la première consultation. Alors, il y a d'autres troubles. Les troubles de l'interaction sociale, voilà, il faut les repérer, c'est des troubles de l'autonomie. C'est finalement qu'est-ce que le patient fait et ne fait pas. Et on s'intéresse à principalement 3 choses. La première chose, c'est qu'est-ce qui fait plaisir au patient comme activité. Et donc, il faut essayer de sauvegarder au maximum. On verra par exemple que quelqu'un qui a l'habitude de prendre sa voiture pour aller rencontrer des gens, jouer à la belote, jouer au golf, je ne sais pas quoi, même s'il conduit pas très très bien, eh ben, il vaut mieux essayer de lui laisser sa conduite pour qu'il fasse son activité qui est le bonheur de son existence, plutôt que de lui couper cet élément-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut mesurer un certain nombre d'interactions avec le monde extérieur basiques. Je suis capable d'aller faire des courses, je suis capable de prendre mon téléphone pour discuter avec quelqu'un, je suis capable de gérer les médicaments qu'on m'a prescrits, je suis capable de gérer l'argent. Donc on a comme ça un certain nombre de grilles d'évaluation qui sont fondamentales parce qu'elles vont mettre en évidence des handicaps, des désavantages qu'il faut compenser. Et puis après, on a aussi d'autres choses qui sont est-ce que je peux me laver, est-ce que je peux m'habiller, est-ce que je suis capable de gérer ma continence, etc. Ensuite, il y a des troubles physiques. Il est quelle heure là? Ah, il faut que je passe vite. Les troubles de l'autonomie. Et je vais terminer par 2 choses qui sont les troubles du comportement et les troubles des familles. Les troubles du comportement, c'est tout ce qui fait la complexité de cette maladie parce que globalement, le comportement entre guillemets sensé, acceptable, cohérent de la relation aux autres est quelque chose qui se brise. Et il se brise par 3 mécanismes. Il se brise d'abord parce que les patients ne comprennent pas le monde extérieur. Et si le monde extérieur n'essaie pas de s'adapter un petit peu à eux, la vie est un enfer. Je vous explique, je vous donne un exemple. J'ai une de mes patientes qui trottine dans son quartier, elle vit seule, mais elle s'entend pas trop mal. Mais voilà, tous les jours, elle va à sa banque et elle dit « Bonjour, je voudrais 2 millions ». Alors, comme il y a eu un deal qui a été passé par la famille avec la banque, le banquier répond « Ah, eh ben, c'est pas possible aujourd'hui, ma pauvre dame. Mais revenez donc demain, je vous les donnerai. En attendant, je vous donne 20 euros ». Avec ses 20 euros, elle va chercher son journal, elle feuillette, elle s'installe au bistrot, elle prend un café, un croissant, elle remonte chez elle. La vie est belle, pour elle, tout va bien. Et c'est demain qu'elle ira chercher ses 2 millions. Si elle tombe sur un banquier, banquier, non, vous ne pouvez pas avoir 2 millions. Comment ça, je ne peux pas avoir 2 millions? Mais j'ai l'argent. Non, je ne peux pas. Imaginez qu'elle ait une canne. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa canne? Elle commence à taper sur le comptoir, voire éventuellement elle tape sur le banquier. Qu'est-ce qu'il fait le banquier? Il appelle les pompiers. Les pompiers, ils emmènent la dame à l'hôpital. À l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut pas rester. Comment? Elle ne veut pas rester. Mais on la met sur un brancard et on la ligote. Et elle finit grabataire ou morte au bout de quelques semaines parce qu'elle est lancée sur ce que j'appelle le toboggan à vue. Vous voyez très bien comment il y a des troubles du comportement, y compris agressifs au sens large du mot, qui sont d'une parfaite cohérence dans la tête du patient. Moralité, c'est à nous de nous adapter. Et donc, on voit bien que l'éducation de l'entourage est fondamentale pour que les patients vivent des moments qui sont des moments agréables. Pour autant, cette dame, avec ses 20 euros, elle vous dit « Mais je vais très bien, vous faites vos courses ?»« Ah bah oui, vous savez, je vais tous les jours à la banque et après, je fais mes courses. » Pour elle, tout va bien. Alors, le deuxième aspect de ces troubles du comportement aussi qu'il faut comprendre, c'est que la capacité d'expression de problèmes physiques est altérée, justement par des troubles des gnosies. Et donc, bon nombre de patients qui ont des souffrances physiques, ils ont mal. Ils ont mal au ventre, ils sont constipés, ils ont une rétention d'urine, etc. Ils ne vont pas traduire cela en disant « j'ai mal », ils vont s'agiter ou au contraire, ils vont se recroqueviller. Et donc, ils vont avoir un trouble du comportement et tout notre travail, nous, c'est voilà, de comprendre. Et ça n'est qu'à des stades, enfin, ça n'est qu'une fois qu'on a éliminé ces deux explications, qu'on va retenir des troubles du comportement qui sont effectivement liés au dysfonctionnement cérébral qu'induit la maladie d'Alzheimer. Alors, il y a des patients qui ont des comportements très étonnants. Il y en a par exemple qui s'amusent à vider les placards. Alors ils ouvrent les placards, ils mettent tout par terre et ils s'en vont. Alors vous êtes le conjoint, vous rangez. Et puis vous revenez 10 minutes après, tout est de nouveau dehors. Donc on le fait une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois si on est un saint. Et à la 21e, on claque. Et donc vous comprenez bien comment l'explication de ce qui se passe à l'entourage familial est fondamentale parce que ça permet une compréhension. Alors, je ne parle pas d'autres troubles du comportement qui peuvent être même considérés comme délictueux parce que, voilà, on se désinhibe quand on a cette maladie d'Alzheimer et quand on désinhibe, il y a, voilà, le sexe est toujours présent quand on est désinhibé. Donc, si on explique à l'entourage cette perte de pudeur, vous avez par exemple des vieux monsieur qui, tout d'un coup, se mettent à se promener à poil chez eux ou qui des patients qui se déshabillent. Si on n'explique pas que c'est dans la maladie, que ce n'est pas de la perversion, que ce n'est pas de la méchanceté, eh bien, voilà, on va se trouver dans des situations de conflit et on sait que lorsque le patient est en conflit avec son entourage, ou en douleur et en souffrance avec son entourage, il va se retrouver très très rapidement dans une maison de retraite, alors peut-être qu'il ne l'aurait pas souhaité, même si aller dans une maison de retraite n'est pas forcément une très mauvaise chose. Je vais aller très très vite, donc j'ai parlé des troubles familiaux, pour vous dire que la prise en charge que l'on met en place pour ces patients, c'est une prise en charge extrêmement globale, et vous verrez que les médicaments que l'on a à notre disposition, qui existent depuis une dizaine d'années, qui coûtent une fortune à la sécurité sociale et qui globalement ne servent à rien, ne changent pas grandement les choses, alors qu'une prise en charge globale change réellement les choses. Alors il faut faire plein de choses. Il faut d'abord annoncer le diagnostic. Je passe, c'est très compliqué, mais bah, je n'ai pas le temps. Et je voudrais insister sur ce que j'appelle la sauvegarde des droits. Ce n'est pas parce qu'on se perd un peu dans la rue qu'on n'a pas le droit de rester en identité sociale, en identité civique, et voire même avoir la capacité de gérer ses biens. Moi, si tout d'un coup, je décide de rentrer chez Bentley, de m'acheter une voiture et de m'endetter pour 20 ans, on dira, tiens, le professeur, il a 50 et des bouts, là, c'est marrant. Si je fais la même chose à 80 ans et que j'ai un peu une maladie d'Alzheimer, on dira, mais voilà, il est devenu fou, entre guillemets, au sens classique du mot, donc on va le mettre sous tutelle et lui retirer son argent et ses chéquiers. C'est très compliqué. Par exemple, le droit de vote. Il y a des patients complètement perdus à cause de leur maladie d'Alzheimer, mais voilà, la famille me demande, est-ce qu'on peut l'emmener voter? Moi, je dis, pourquoi pas? Essayez de voir, mais il faut surtout essayer de sauvegarder l'identité et l'autonomie des gens. Et c'est très compliqué lorsque les gens peuvent, entre guillemets, se mettre en danger. Sous-entendu, je suis chez moi, je vis seul, j'oublie de manger, mais voilà. Et puis, je maigris, je deviens dénutri, j'atterris à l'hôpital parce que quelqu'un m'a coincé. Je suis un peu anosognosique, je dis tout va bien, je veux rentrer chez moi. Comment en tant que médecin, je peux prendre la décision de dire non, c'est pas possible? Et donc c'est très très compliqué. Je suis très frappé de ce que le Comité national d'éthique a énormément produit de réflexions sur le droit de l'embryon, vous savez, la fécondation in vitro, etc. Mais sur la maladie d'Alzheimer et ce que c'est que l'autonomie de grand âge, pour le moment, il n'y a pratiquement rien. Et il y a un champ très compliqué. Et on voit très bien, suivant on va dire la culture professionnelle des médecins très laxistes, et moi je suis très laxiste car je me dis que sauvegarder l'autonomie des gens jusqu'au bout c'est ce qui est le mieux, mais je prends des risques, mais je me fais parfois engueuler par des familles qui me disent « mais vous êtes déraisonnable docteur ». Et il m'est arrivé d'avoir le sentiment que certains patients que j'ai envoyés en maison de retraite sont morts très très vite et je me suis senti coupable, mais aussi certains patients qui sont restés chez eux ont eu des accidents et je me suis senti coupable. Et donc c'est très compliqué, je pense qu'il faut se laisser guider par l'éthique, essayer d'écouter aussi au maximum ce que disent les patients, et à des stades débutants de la maladie, de demander aux patients de désigner une personne qui considérera comme la personne qui sera son porte-parole lorsqu'il pourra plus s'expliquer. Ce qu'on appelle la personne de confiance. C'est fondamental qu'elle soit désignée, qu'elle soit officiellement désignée, parce que dans les familles, alors en général, le cas de figure, c'est un parent avec les enfants. Et dans les phases de fin de vie, on a éventuellement discuté avec... Alors, je vois le patient, il y a toujours la fille qui vient. Et on a discuté tous et on est d'accord sur le fait qu'au stade très ultime, on ne fera pas d'acharnement thérapeutique. Tout va très bien et débarque le fiston qui habite en province, qui ne s'est pas occupé de sa maman parce qu'il était en province ou, et qui amène sa culpabilité massive et qui dit à ce moment-là, je veux la réanimation, je veux la chirurgie, et pour peu qu'il soit avocat, il nous emmerde, etc., etc. C'est très important d'avoir ce guide de ce porte-parole. Et je terminerai par une démonstration. Alors, c'est un peu compliqué, mais ça, c'est... Vous avez deux courbes qui représentent la probabilité de rentrer en maison de retraite. Vous avez les pointillés, c'est des patients qui ne prenaient pas de médicaments. Et vous avez les traits pleins, c'est des personnes qui prenaient un médicament dans un essai pour tester les performances du médicament. Vous voyez qu'à 4 ans ou 5 ans, il n'y a pas de différence. Donc les médicaments qu'on a à notre disposition, que certains donnent, moi je les donne très peu, ne changent pas la probabilité d'aller en maison de retraite lorsque la maladie devient très avancée en termes d'évolution. En revanche, là vous avez l'inverse. En très plein, c'est des gens qui ont reçu, je mets le mot entre guillemets, traitement, et en pointillé ceux qui ne l'ont pas reçu. Vous voyez qu'à 5 ans, il y a une vraie différence. Et le traitement qu'on a donné à ces patients n'est ni plus ni moins qu'un accompagnement, une formation et une information de la famille. On n'a pas touché au patient, on n'a rien fait, on s'est simplement contenté d'expliquer à son entourage familial ce que c'est que cette maladie, comment il faut essayer de se comporter. Et vous voyez combien là on a été, sur cette variable, efficace et combien on peut dans ces maladies améliorer les choses, la qualité de vie, le fait de rester à la maison, l'autonomie, la nutrition, etc., sans médicaments et en intégrant le malade dans son environnement et en prenant en charge l'environnement. Vous voyez, c'est un message sur une médecine qui n'est peut-être pas très high-tech, parce que nous, les gériatres ou les neurologues, on n'est pas chirurgiens, on ne sauve pas les gens au quotidien, on ne sort pas du bloc en jetant les gants en disant « voilà, nous sommes les sauveurs du monde ». On fait un travail au quotidien d'accompagnement pendant 10 ans de patients, mais finalement, c'est un bon résultat, car derrière tout ça, il y a une notion de qualité de vie. Nous sommes tous mortels. On doit tous mourir globalement de 3 maladies, maladie cardiaque, cancer ou maladie d'Alzheimer. Parfois, il y a des gens qui ont les 3 en même temps. Et donc, comme on est dans des maladies chroniques, le paradigme de la médecine, c'est de reconnaître qu'on ne peut pas tout guérir, mais qu'on peut intelligemment accompagner et améliorer la qualité de vie des patients. Et c'est sur ce message-là que je terminerai.